Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Premier épisode.
Publié en janvier 2004, Pura vida inaugurait une nouvelle manière dans l'œuvre du romancier Patrick Deville. La fiction cédait la place à l'enquête pour permettre à l'auteur d'écrire sur l'histoire de l'idéal révolutionnaire, qu'il ait pris le visage du marxisme pur et simple ou celui des luttes anticoloniales.
Managua est une belle ville. C'est un peu absurde. En tout cas, l'idée est étrangère à toute réalité, tu ne trouves pas ? Et avec cette chanson, c'est le rideau du grand music hall de l'histoire qu'on ouvre sur un monsieur loyal en habit et chapeau claque miteux, canapomo à la main. Tu visualises ? Il vient nous promettre la merveilleuse et terrible, et pourtant véridique, histoire du Nicaragua. Elle date de l'entre-deux-guerres, cette chanson. À cette époque, le général Sandino, qui venait de mettre les Américains dehors, se fait assassiner par le général Somoza, qui laissera les Américains revenir. Managua, Nicaragua is a beautiful town. Une blague. Une blague. Tout ça sent le crime, les trahisons, la poudre et la lame de poignard. C'est cette odeur-là qui m'a amené, je sais plus quand exactement, peut-être au début des années 90, à ouvrir un carnet. J'étais accoudé à ce comptoir déjà. Et j'ai commencé à prendre des notes sur deux siècles de révolution. Tu écris, toi ? Est-ce que t'as déjà rêvé d'écrire ? Si c'est le cas, tu dois savoir à quel point ce rhum, Flor de Caña, distille en une seconde devant nous les plans majestueux d'œuvres gigantesques de Jérusalem céleste. On s'y croit immédiatement. Il bâtit pour nous de subtiles constructions aériennes qu'on entrevoit dans leur perfection glorieuse et dorée au fond du miroir du comptoir. Et aussitôt évaporé dès que la plume rencontre le papier. Ce jour-là, donc, et les jours qui ont suivi, j'ai imaginé un livre qui, du 14 juillet 1789 au 14 juillet 1989, restituerait ces rêves de justice et de raison que les meilleurs d'entre nous auront nourris pendant deux siècles. Dans l'histoire, ce n'est qu'un claquement de doigts. Un livre qui s'ouvrirait sur les victoires des jeunes généraux de la République, dont le souvenir devrait empourprer nos fronts. Un livre dans lequel apparaîtrait quelque part le nom de Simon Bolivar et celui d'Augusto César Sandino. Un livre qui s'écroulerait avec l'échec des révolutions cubaines et nicaraguayennes et les exécutions d'Arnoldo Ochoa et d'Antonio de la Guardia, proche lieutenant de Fidel Castro, qui les fera pourtant exécuter à La Havane le 14 juillet 1989. C'est-à-dire un an ou deux avant que le gouvernement des sandinistes ne perde le pouvoir à Managua.
Et c'est ce William Walker qui t'en a détourné, de ce livre.
Je ne vous ai pas présenté Victor. Un ami. Enfin, je ne sais presque rien de lui. Je peux vous le décrire, il a ses signes distinctifs. La même casquette rouge, par exemple, que Travis le paumé filmé par Wim Wenders dans Paris, Texas. Et le même air fantomatique. Mais Victor est plus mystérieux encore. Un ancien espion ? Un type qui aurait pris part à cette histoire tumultueuse ? Un Européen ou un Américain qui circulait dans la zone à la solde d'un gouvernement qu'il ne nommera pas ? Je n'en sais rien, à vrai dire, mais je le rencontre souvent dans les bars où je prends des notes. Nous parlons peu, mais c'est un ami, une sorte d'ami. Le frère qu'on se bricole, le double qu'on envoie sur la route marcher en éclaireur. C'est d'ailleurs parce que nous parlons peu que Victor se trompe. Enquêter sur William Walker ne m'a pas vraiment détourné de mon premier projet sur les révolutions. Il en est bien plutôt sorti comme un diable de sa boîte. l'histrion qu'on n'avait pas prévu et qu'on retrouve partout au fil des recherches. Sa vie m'a passionné. Et pendant tous ces mois passés avec lui à parcourir l'Amérique centrale sur les traces de son armée fantôme, j'ai peu à peu découvert que certaines de ses vies, emplies d'actes de bravoure admirables, de traîtrises immenses et de félonies assassines, ne le cèdent en rien à celles des hommes illustres qu'a rassemblé Plutarque. William Walker. Au cours des 19e et 20e siècles, cette région du monde n'a pas été plus avare de héros, de traîtres et de lâches que ne l'avaient été les provinces grecques et latines de l'Antiquité. Là aussi, des hommes avaient rêvé d'être plus grands qu'eux-mêmes et avaient échoué.
Et l'idée t'est venue de rassembler ces vies. Et donc, ce William Walker,
il m'apparaît d'abord comme un gamin chétif dont les parents vivent à Nashville, Tennessee, et qui grandit à l'abri du besoin.
Ça se passe quand ?
Il est né en 1824, l'année où meurt Byron, parti libérer les Grecs des Ottomans à Missolonghi. Je te donne ce repère car Walker sera bouleversé quelques années plus tard par la découverte de Byron. Ses poèmes, ou sa mort héroïque et romantique, on ne sait pas bien. On entend partout cette fascination dans le discours qu'il prononcera en 1848 à l'université de Nashville. L'héroïsme, c'est sa conclusion, l'héroïsme est la forme supérieure de l'art.
Et ça suffirait à expliquer son parcours de flibustier.
Il n'y a pas qu'une explication, jamais. Elles pullulent, forment des faisceaux qui peu à peu convergent et se contraignent les uns les autres, et portent le garçon ou le jeune homme dans une direction précise, ou vers telle ou telle mort dans le cas de Walker. Ceci expliquant qu'on puisse ensuite dire héroïque et totalement grotesque la mort de cet aventurier, en 1860 à 36 ans, après qu'il a pourchassé un rêve qui avait le visage de Lord Byron et aussi celui d'un général sud-américain, Simon Bolivar.
Une rue de Nashville en 1830. Deux enfants, dont William Walker, rentrent de l'école.
Du général Bolivar. Que faire du corps? La Colombie l'ignore. Demandez l'édition du soir. Édition du soir. Achetez l'édition du soir.
C'est qui Bolivar?
J'en sais rien, William. Un général, un Mexicain ou quelque chose comme ça.
T'entends pas, il dit que le type est mort en Colombie.
Qu'est-ce que ça change? Colombie ou Mexique, on n'ira jamais. Mais je pourrais te dire que c'est à côté de Dublin, qu'est-ce que tu en saurais?
Mais le vendeur de journaux parle pas du général Mac Bolivar, il dit Bolivar tout court.
Ah, tu m'ennuies, William.
Eh ben, c'est pas avec toi que ton petit frère apprendra quelque chose.
C'est pas mon frère, monsieur. Lui s'appelle Hardley et moi Walker. William Walker.
Eh bien, William, tout ce que je peux te dire, c'est que ce général Bolivar a allumé des guerres pour 100 ans, à travers toute l'Amérique latine. Il voulait copier notre fédération américaine et regrouper tous les pays en une seule république immense. Pour ça, il est donc allé faire la guerre partout.
Pour tuer des rois et des trucs comme ça? Comme en France pendant la Révolution?
Je ne sais pas, si tu veux. Mais là, tu vois, c'est plutôt sa mort qu'annoncent les journaux.
Mais comment il est mort? Au cours d'une attaque? Un coup de fusil ou de revolver?
Au moment où les fils de l'existence du jeune William Walker commencent à se nouer, à 5000 kilomètres de là, le général Bolivar voit donc les fils de son existence se dénouer tragiquement. À quoi pense-t-il alors, ce général fourbu au front baigné de fièvre, ce général à rouflaquette et visage en lame de couteau, qui voit devant lui son grand œuvre se disloquer? Ce général Bolivar que j'aimerais savoir finalement serein et apaisé, revoit-il en souriant son enfance à Caracas, le petit jeune homme pâle qu'il fut alors et qui avait eu le courage ou l'insensé culot présenté à 16 ans au vice-roi d'Espagne au Mexique en 1799 de lui proclamer son admiration pour la Révolution française? Lui qui allait arracher au joug espagnol la moitié de l'Amérique latine en d'incessants combats victorieux, qui allait devenir le chef d'État de l'actuelle République bolivarienne du Venezuela, de l'actuelle Colombie, du Pérou, de la Bolivie, et n'allait cesser de démissionner par mauvaise humeur, puis de reprendre ses fonctions, vient encore une fois de quitter la présidence de la République sur un coup de tête. Il descend avec sa garde rapprochée le fleuve Magdalena, de Bogota jusqu'à la côte. C'est une lente procession de bateaux qui glisse en silence sous le long tunnel émeraude de la jungle, écartant le tapis des fleurs aquatiques. Allongé au fond d'un hamac, que ses hommes protègent du soleil avec des abris de palmes sèches, égaré en son délire fiévreux, Simon Bolivar écoute les cris des singes invisibles dans la forêt, surveille les grands yeux d'or des crocodiles au ras des lentilles d'eau, respire l'odeur poisseuse du fleuve. Et si elle avait survécu, cette jeune femme aux longs cheveux noirs qu'il avait épousée à Madrid en 1802, la belle Maria Teresa Rodriguez del Toro, si elle n'était pas venue mourir en Amérique un an plus tard, à Caracas, où seraient-ils aujourd'hui tous les deux? S'il n'avait été ce veuf de 21 ans au cœur brisé, serait-il reparti aussitôt en Europe pour assister en 1804 au sacre de Napoléon Bonaparte? Aurait-il pris les armes à son tour aussitôt rentré en Amérique, ébloui par les fastes de la timocratie? Se serait-il jeté dans la fureur des batailles si les longs cheveux noirs et parfumés de la belle Maria Teresa étaient venus chaque nuit balayer son sommeil?
Chercher la femme.
Peut-être. Resserre-moi de ce rhum qui est superbe.
Flor de cagne. Distillé ici, à Managua. Celui-ci n'a que 7 ans d'âge, mais il en existe une autre cuvée. Mm-hmm. Imagine ça. 18 ans d'âge.
Depuis la mort de Maria Teresa, Simon Bolivar est un fuyard et n'a plus de lieu sur la terre. Le glorieux Libertador au sabre dressé n'a cessé depuis 20 ans d'abandonner derrière lui quantité de maîtresses en leur promettant un très improbable retour. Il n'a cessé de confier à ses amis la garde des multiples bibliothèques constituées dans chacune des villes où il aura vécu, Madrid et Caracas, Paris, Bogota et Lima. Au fond de l'une ou l'autre des nombreuses malles et cantines qui l'accompagnent sur le fleuve pour son dernier voyage de pharaon moribond, au milieu des étoffes rares et des couverts en argent frappés à son monogramme, il sait que reposent quelque part les 2 seuls livres qu'il aura partout transportés avec lui, dans ses palais comme dans les bivouacs précaires des campagnes. Du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau et L'art militaire de Raimundo Montecuccoli. Ces 2 livres en français, qui ont appartenu avant lui à Bonaparte, lui avaient été offerts par son ami anglais, le général Wilson, après la mort de l'empereur à Sainte-Hélène. Au bout du fleuve Magdalena, à Santa Marta, Simon Bolivar attend un hypothétique bateau pour s'enfuir une dernière fois vers l'Europe. Ou bien il attend qu'on se prosterne encore une fois devant lui, qu'on le supplie de bien vouloir encore une fois reprendre le pouvoir. Il écrit beaucoup, livre sa dernière bataille épistolaire contre la dislocation de sa grande république. Mais il sait bien qu'il est à l'agonie. Qu'après sa mort, le bel édifice volera en éclats qui déjà se fissurent, et déjà des combats fratricides opposent ses hommes au Venezuela. Après 14 années de guerres incessantes, il faudrait encore une fois se mettre en selle, mais son meilleur cheval, le mythique Palomo Blanco, il l'a abandonné en Bolivie. Il faudrait encore une fois sillonner l'empire de la côte caraïbe au désert du Chili et mater les insubordinations, les sécessions, faire fusiller les factieux, encore une fois tout recommencer, mais il n'en a plus la force et crache le sang sur son bel uniforme bleu ciel aux boutons d'or pur. le moribond phtisique, le libertador agnostique qui n'a pas même le secours des dieux, est assis dans son fauteuil en rotin sur la plage. C'est l'heure des bilans et des regrets. Il observe les coquillages blancs sur le sable, les eaux turquoises de la mer des Caraïbes et les vagues en sillon sur la barrière de corail. Celui qui sert une révolution laboure la mer.
Celui qui sert une révolution laboure la mer. Elle est de lui, cette phrase ?
Oui, et sans doute écrite dans une de ses dernières lettres, au moment où il se met à douter de la pérennité de son œuvre et de son idéal. Il n'y croit plus.
Toutes ces statues, pourtant, sur son cheval, sur chaque Plaza Mayor, en Argentine, au Chili, au Pérou, en Bolivie, partout. Et les avenues, les boulevards, l'aéroport de Caracas, celui de Santa Marta, la station de métro à Paris, le cigare cubain que je t'ai offert tout à l'heure, le nom d'un pays même, où le Che se retrouvera coincé comme un rat.
Est-ce que le succès soigne du doute ? Est-ce que les ors des palais présidentiels rendent systématiquement aveugle ? Il a démissionné, tu sais, aussi souvent qu'il a pris le pouvoir. Et à la fin de sa vie, il pense à Cuba, qui est au-delà de l'horizon, qu'il voulait arracher à l'Espagne. C'est certainement son plus terrible regret. Mais il regrette aussi les femmes fraîches aux peaux de réglisse habillées des couleurs vives de la mode créole. Elles avaient adouci son veuvage et son exil, parce qu'à 25 ans, il avait été envoyé à Curaçao. On avait voulu le mater, extirper du jeune officier le germe de la révolution.
C'est peu de regrets pour une vie si tumultueuse. Il s'en sort bien.
Il regrette aussi son ami Manuel Piard, le jeune mulâtre de Curaçao qui avait quitté l'île avec lui, qui s'était couvert de gloire au fil des combats révolutionnaires, jusqu'à devenir ce général Piard trop ambitieux, que lui, Bolivar, avait fait fusiller la mort dans l'âme. Il se souvient qu'il avait refusé d'assister à l'exécution, avait déclaré le lendemain à la troupe « Hier fut un jour douloureux pour mon cœur ». Dans ses dernières lettres, par coquetterie peut-être, il imagine que son nom ne restera pas gravé dans l'histoire.
Et tous ceux dont tu me parles, pour lesquels tu remplis des carnets, tous ceux-là ont eu Bolivar comme modèle, c'est ça ?
Walker, Sandino, Guevara, oui, certainement. Mais encore une fois, Victor, un nom ne suffit pas. De la même façon qu'il faut deux silex pour obtenir une étincelle, il faut plusieurs noms pour obtenir un bouillon de culture capable de faire d'un gamin plutôt intelligent un fou dératé. Quand le Libertador meurt à San Pedro Alejandrino, le 17 décembre 1830, William Walker est un gamin. Il n'a pas encore lu Byron. Mais du jour où le nom du poète anglais viendra frapper celui de Bolivar, Walker multipliera les sentences définitives, celles qui trahissent l'exalté. Tu te souviens ? L'héroïsme est la forme supérieure de l'art. Il faudra que l'unique amour de Walker meure l'année suivante du choléra pour qu'il se taise. Il embarque alors pour la Californie.
Quand ça ?
En 1849, il a 25 ans.
En pleine ruée vers l'or.
Il embarque avec tous les cherche-fortunes, tous les amants inconsolables, tous les traînes-savates. Il devient journaliste au San Francisco Daily Herald, intègre un cabinet d'avocats, mais rien de tout cela ne comble le puits sans fond de sa neurasthénie. Et voilà que le début d'une piste se présente qui pourrait devenir une rampe de lancement. Des Apaches attaquent les deux côtés de la frontière, mais surtout au sud, dans la province mexicaine du Sonora, et massacrent une dizaine de fermiers. Ça se passe en septembre 1853.
Je sais ce que se dit Walker à ce moment-là. Lord Byron aurait évidemment monté une expédition pour protéger les Sonoriens. Arrête-moi si je me trompe. Il monte une expédition pour se rendre maître du Sonora.
Il se rend seul à Guaymas, sur la côte mexicaine du Sonora, et il remonte ensuite en Californie en étant convaincu de la possibilité d'arracher du même coup toute la province à l'armée mexicaine et sa vie à l'ennui. Quand bien même il n'aurait avec lui qu'une bande d'éclopés.
Non, j'ai pas l'argent. Ni pour les payer, ces hommes, ni pour les armées. Et encore moins pour les nourrir. Mais écoute un peu. Nous pouvons vendre par souscription les terres cultivables du Sonora, dont les souscripteurs deviendront propriétaires une fois les Mexicains mis à la porte. Et c'est cet argent qui nous servira à monter l'opération. Qu'en penses-tu ? C'est pas un coup fumant ?
Et tu te donnes jusqu'à quand pour mettre l'expédition sur pied ?
Nous devons être prêts pour le début de l'automne.
De cette année ?
Ben oui ! Nous louons à vapeur. Nous sommes 50 à bord. Nous quittons San Francisco. J'imagine que tous ne seront pas expérimentés, mais je chercherai une victoire facile pour le premier contact avec le Sonora, pour les aguerrir, vois-tu ?
Terre craquelée, aride. Lézards et cactus en candélabre devant les montagnes rouges qui plongent dans l'eau verte du Pacifique. Le bateau finit par entrer dans un petit port de pêche qui se trouve au bout de la basse Californie mexicaine qui est presque inhabitée. Le débarquement surprend le gouverneur pendant sa sieste, peut-être, et à l'issue d'une brève escarmouche, William Walker proclame à la face du monde, peu attentif, l'indépendance de sa République de Basse-Californie et Sonora. Nous sommes le 3 novembre 1853. Ensuite, à la recherche d'une région moins désertique où exercer son magistère, il remonte vers le nord et installe son poste de commandement dans le port d'Ensenada, à une centaine de kilomètres au sud de la frontière californienne, où les déconvenues s'accumulent aussitôt. La troupe est harcelée par une bande de guérilleros locaux aux ordres d'un certain Guadalupe Melendres. Les provisions sont vite épuisées. Les Apaches peuvent fondre du nord, et deux bâtiments de guerre, l'un nord-américain et l'autre mexicain, mouillent à l'ouest, verrouillant le port. William Walker, qui s'est autopromu président de la République en janvier 1854, choisit pourtant la fuite en avant. Il s'empare de villages fantômes déjà détruits par les Apaches, parvient à rassembler quelques dizaines de Pecno Rancheros qu'il enrôle de force dans son armée à l'issue de cérémonies avec fanfare mariachi et salut au drapeau, tequila frappé et discours enflammé du président qui attend l'arrivée des renforts. Cette troupe de quelques dizaines d'hommes va parcourir pendant des mois des centaines de kilomètres de sable et de rocailles en plein cagnard, buissons d'herbes rêches où les desperados de Melendres montent leurs embuscades. Ils traversent le fleuve Colorado pour retrouver sur l'autre rive le même paysage brûlé, le même soleil blanc, les mêmes marches forcées dans le sable et les cailloux, et l'armée mexicaine qui leur enjoint de déposer les armes.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Premier épisode.
Avec
Vincent Schmitt,
le narrateur.
Charlie Nelson,
Victor.
Régis Chaussard,
le vendeur de journaux.
Agathe Le Bourdonnec,
William Walker enfant.
Rémi Goutalier,
l'adolescent.
Pierre Carbonnier,
l'adulte.
Philippe Bautier,
William Walker.
Et Marina Moncade, Manuel Ulloa, Paola Cordova, Olivier Peigné. Bruitage
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire
Emmanuel Chevalière.
Équipe de réalisation
Éric Villonfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, Vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.